Les mystères du Palais Royal, sixième partie. Chapitre 10. Les trois chambres du château de la Tremblay. Cinq ou six jolis cris de frayeur répondirent aux paroles que Philippe d'Orléans venait de prononcer. « Vous voyez à quel point j'avais raison, » dit le duc. « Donc, restons-en là. Un autre jour, quand nous serons entre hommes, bientôt, demain peut-être, nous reprendrons en sous-œuvre ce curieux chapitre des évocations. Ce soir, parlons d'autre chose, et revenons à des sujets plus joyeux. Je suis aux ordres de votre Altesse royale, maintenant et toujours, répondit Raoul en s'inclinant.
Mais non,
s'écria en ce moment Madame de Parabère, qui venait d'échanger quelques mots avec les autres convives féminins du régent. Nous trouvons que le chevalier de la Tremblay raconte à merveille. Nous ne sommes point fâchés de frémir et de mourir un peu de frayeur. Bref, si toutefois, bien entendu, cela convient à votre Altesse royale, nous demandons à corps et à cri une nouvelle histoire effrayante. Et revenant, cela change un peu. Vous entendez, chevalier ? Dit le duc en souriant. Parfaitement, monseigneur. Quand ces dames ont parlé, ce sont elles qui commandent ici, et non plus moi. Êtes-vous disposé à leur obéir ?
Comme à vous-même, monseigneur.
Et vous allez les régaler d'une bonne histoire bien effrayante ? Je vais du moins avoir l'honneur de raconter l'une des plus étranges et des plus incroyables aventures qui se puissent entendre. S'agit-il dans cette aventure de faits contemporains ?
Il s'agit, monseigneur, de faits qui se sont passés pendant mon enfance et ma première jeunesse.
Ah, c'est vous-même que nous allons voir en scène, chevalier.
Moi-même, monseigneur.
Eh bien, l'intérêt de votre récit en sera doublé, et notre attention également, n'est-ce pas, mesdames ?
Oui, oui, oui,
fut-il répliqué d'une commune voix. Raoul répondit par un salut circulaire et par un sourire reconnaissant à chacune des jolies convives qui l'encourageaient ainsi. Puis il commença. Mais avant de l'écouter, comme chacun de nos lecteurs, de ceux du moins qui se rappellent le braconnier Roger Rigaud, la naissance de Raoul et sa première entrée au château de la Tremblay, comme chacun de nos lecteurs, disons-nous, va surprendre notre héros dès les premiers mots en flagrant délit de mensonge, et comme la préoccupation de ce mensonge dont il chercherait le but pourrait le distraire, nous allons donner une brève explication, ou plutôt un avertissement. En racontant à Philippe d'Orléans l'histoire de l'évocation de Turenne-Saint-Denis, Raoul avait un but. C'est ce même but, et nous le connaîtrons bientôt, que Raoul poursuivait en narrant la seconde histoire que nous allons entendre et surtout en se faisant jouer un rôle important dans ce récit bizarre. Du reste, Raoul ne pouvait point s'attribuer tout le mérite de l'invention, en admettant que ce mérite existât, et ne devait revendiquer que la très modeste position d'arrangeur, car il ne faisait que disposer et modifier à sa guise une anecdote assez connue en Normandie et avec le récit amplifié et défiguré de laquelle la brave Suzanne Rigaud, sa mère, avait bercé son enfance. Et maintenant que nous avons expliqué ce qui peut-être ne valait pas la peine d'une explication, rendons au chevalier de la Tremblay la parole que nous lui avons enlevée pendant trop longtemps. « Monseigneur, dit Raoul en se retournant à demi vers Philippe d'Orléans, car c'était toujours au régent que l'on s'adressait quand on racontait à la table du régent. Votre Altesse royale connaît sans doute quelques-uns de ces vieux châteaux, sombres demeures féodales, qui sont les nids d'aigle de votre bonne et fidèle noblesse de province. Philippe d'Orléans se contenta d'incliner la tête d'une façon qui voulait dire très clairement « Oui, oui, j'en connais, continuez. » Raoul reprit. Le château de la Tremblay, dit-il, est une de ses demeures. Le duc d'Orléans fit un mouvement presque imperceptible, mais qui n'échappa point à Raoul. Que votre Altesse royale daigne se rassurer, fit-il vivement. Je n'abuserai en aucune façon de mon privilège de narrateur. Je ne décrirai point le manoir seigneurial. Je ne parlerai ni de ses tourelles, ni de ses créneaux, ni de ses machicoulis, ni des hautes futaies qui l'entourent. En un mot, je ne dirai de ses dispositions intérieures que ce qu'il est indispensable d'en dire pour l'intelligence de mon récit. Dans toute la longueur du premier étage,
régnait une large galerie, prenant jour sur une cour intérieure par 15 ou 16 fenêtres. 8 ou 10 portes pratiquées dans cette même galerie donnaient accès dans autant de chambres destinées à recevoir les hôtes qu'appelait au château l'hospitalité bienveillante et cordiale de mon noble père Réginald de la Tremblay. Ici Raoul s'interrompit pendant quelques instants et porta sa main à ses yeux, comme pour essuyer une larme absente qu'il donnait à la mémoire de son noble père. Puis il continua. À l'une des extrémités de cette galerie, du côté nord, se trouvait l'appartement que j'occupais. Cet appartement était composé de 3 pièces en enfilade. Chacune de ces pièces était tendue depuis le plancher jusqu'au plafond de hautes tapisseries à personnages. Dans chacune de ces pièces, il y avait un lit de bois de chêne à colonne torse, selon la mode du temps passé. Mes plus anciens souvenirs me reportent vers l'âge de 10 ou 12 ans. J'habitais alors la première de ces 3 chambres, celle qui s'ouvrait directement sur la galerie. Les 2 autres étaient fermées. La tapisserie, aussi présente à mon esprit que si je venais de la regarder il y a 2 heures, offrait la reproduction naïve de la légende bien connue de Saint-Hubert, ce patron de tous les veneurs, passé, présent et à venir. Au milieu d'une immense forêt verdoyante, percée de profondes avenues, dans lesquelles la lumière et l'ombre se jouaient parmi des gibiers de toutes sortes, depuis le sanglier jusqu'au lapin, depuis le faisan jusqu'au merle, Saint-Hubert chassait un cerf. Dogues et molosses hurlants venaient de forcer l'animal que Saint-Hubert se disposait à percer d'une flèche victorieuse. Mais voici que soudain, et c'était là le moment choisi par le dessinateur des maquettes de la tapisserie, une croix lumineuse apparaissait entre les ramures du cerf près de mourir. Les chiens, domptés par le miracle qui s'accomplissait, devenaient doux comme des agneaux et léchaient l'animal qu'une seconde plus tard, ils auraient dévoré. Quant à Saint-Hubert, il tombait à genoux et il adorait Dieu. J'accompagnais quelquefois mon père lorsqu'il s'en allait en chasse dans les forêts de la Tremblay, et ces jours-là étaient pour moi des jours de fête, car je n'aimais rien au monde autant que la chasse, et je me promettais très sincèrement d'y passer ma vie quand j'aurais atteint l'âge de disposer de moi-même. Mais bien souvent aussi, mon père ne m'emmenait pas, et alors je me consolais de mon mieux en passant de longues heures debout devant la tapisserie de ma chambre à coucher, en étudiant les moindres détails et me persuadant qu'un jour ou l'autre, je prendrais part à la chasse de Saint-Hubert. Il avait une excellente figure, ce bon Saint-Hubert, un visage plein et coloré, bienveillant malgré sa rudesse et accentué par une immense barbe rousse. Son costume était celui que les histoires anciennes attribuent aux Parthes, aux Scythes et aux autres peuples presque barbares. Sur sa tunique courte et flottante pendait, soutenue par une chaînette de métal, une grande trompe de forme bizarre, qui ne ressemblait en aucune façon à toutes celles de mon père ou des gentilshommes de sa connaissance. Il me semblait que de cette trompe devaient s'échapper des sons éclatants, propres à remplir les chasseurs et les chiens d'une noble ardeur et à frapper le gibier d'une soudaine épouvante. Quant aux chiens d'une race inconnue qui composait la meute de Saint-Hubert, quelques-uns d'entre eux m'étaient particulièrement sympathiques. D'autres n'avaient point le don de m'agréer, mais je leur avais donné des noms à tous. Sans doute, monseigneur, vous trouvez que j'en dis long à propos des préoccupations et des rêveries d'un enfant. Patience, monseigneur. Dans un instant, vous allez voir naître cet intérêt qui s'attache toujours à l'étrange et à l'inconnu. Car dans un instant, nous allons entrer en plein fantastique. Chapitre 11 La première tapisserie. Mon père, appelé à Abbeville par quelques affaires, avait quitté dès le matin le château de la Tremblay et n'y devait revenir qu'au bout de 4 ou 5 jours. C'était au mois de septembre. Rendu à peu près libre par cette absence momentanée, j'avais passé la journée entière à courir dans les bois sous la garde de 2 valets. Et quand je rentrais le soir, j'étais si parfaitement brisée de fatigue que je me mis au lit après avoir soupé rapidement et que je m'endormis à l'instant même d'un sommeil si lourd que rien semblait ne devoir et ne pouvoir l'interrompre. Combien de temps dura ce sommeil? Je n'en sais rien. Tout ce que je puis dire, c'est que j'en fus tiré brusquement par un bruit bizarre et que je me soulevai sur mon coude, prêtant l'oreille et me frottant les yeux. À travers les vitrages des deux hautes et larges croisées, la pleine lune jetait dans la chambre des nappes de lumière si blanches et si vives que dans le premier moment, je crus qu'il était bien tard, ou plutôt bien matin, et que l'aube paraissait. Mais en même temps, le même bruit qui m'avait réveillé se fit entendre de nouveau. C'était le son du cor. Seulement, jamais, au grand jamais, les accents d'une trompe de chasse n'avaient eu cette puissance incompréhensible, cette expression inouïe, cette sonorité surhumaine. Les notes étranges d'une fanfare gothique, assez vigoureuse pour me briser le tympan, semblaient venir à moi à travers la muraille qui me faisait face. Mes yeux se tournèrent machinalement de ce côté et mes regards rencontrèrent la tapisserie. Certes, en ce moment, le plus incompréhensible de tous les spectacles s'offrit à moi, et ce spectacle, je le contemplais avec une indicible stupeur. Mais, chose inexplicable et que pourtant j'affirme, à cette stupeur ne se mêlait pas la moindre épouvante. La tapisserie n'était plus une tapisserie. Elle avait pris l'aspect de la profondeur d'un de ces merveilleux décors que nous admirons à l'opéra, ou plutôt, elle était devenue une forêt elle-même. Dans cette forêt, tout était agitation, bruit et mouvement. Les chiens quêtaient dans les taillis, en donnant de temps en temps un coup de gueule bref et sonore. Les sangliers, les chevreuils, les loups, les renards, les lièvres et les lapins traversaient les avenues et gagnaient les fourrés. Les faisans voltigeaient de branche en branche, les corbeaux croassaient, les pies criaient, les merles babillaient. Le cerf miraculeux avait disparu, et Saint-Hubert, dépouillé des rayons de son auréole et devenu par cela même un simple chasseur, Saint-Hubert n'était plus à genoux. Debout et appuyant contre ses lèvres l'embouchure de cette trompe bizarre qu'il portait d'habitude en sautoir, il en tirait des notes stridentes qui m'avaient semblé venir à travers la muraille. Je voyais parfaitement s'enfler et se désenfler les joues hâlées du sonneur de trompe, à mesure que son souffle puissant s'exhalait de sa robuste poitrine. La brise des bois agitait sa longue barbe et ses yeux étincelaient sous ses épais sourcils noirs. Il me sembla que sans cette barbe, le visage de l'étrange chasseur aurait ressemblé d'une façon frappante à celui de mon père Réginald. Tout cela me sembla si prodigieux que je ne pus m'empêcher de murmurer. « Est-ce que je rêve ?» Je n'avais pas fini de prononcer ces mots que déjà le singulier personnage laissait retomber sa trompe et me répondait. « Tu es parfaitement éveillé. Tu ne rêves pas le moins du monde. » Le dialogue qui s'entamait ainsi ne m'étonna pas outre mesure, et je demandai hardiment. « Ah ça, qui êtes-vous, s'il vous plaît ? » ?»« Je suis Roland de la Tremblée, un de tes ancêtres, et j'ai vécu du temps de Charles V. » Et que faisiez-vous quand vous viviez? Je chassais. Et depuis que vous êtes mort? Grâce à la piété filiale de mes enfants, qui ont voulu honorer ma mémoire en me faisant revivre sous les traits du grand Saint-Hubert, je suis devenue une figure de laine et de canevas. Mais une fois par an, au jour anniversaire de ma mort, j'ai le droit, par la grâce du Dieu puissant et miséricordieux, de sortir de ma tapisserie et de me mettre en chasse, depuis le dernier coup de minuit jusqu'au premier chant du coq. Et vous usez de ce droit? Comme tu vois. Et tous les ans, vous sonnez de la trompe ainsi que vous venez de le faire? Exactement de la même façon. Et comment se fit-il que jusqu'à présent, ni moi ni personne n'ait été réveillé par les sons formidables de votre trompe? Parce que ces sons, si formidables qu'ils te paraissent, ne frappent que les oreilles auxquelles je veux qu'ils s'adressent. De telle sorte que si vous l'aviez voulu, une autre personne, cachée dans cette même chambre, n'aurait rien entendu? Rien. Et pourquoi avez-vous tenu à ce que j'entendisse, moi? Parce que, si tu le désires, je vais t'emmener avec moi. À la chasse? Oui. Cette nuit? À l'instant. Va comme il est dit, m'écriai-je en sautant à bas de mon lit et en commençant à m'habiller. Mais une réflexion m'arrêta au moment où je venais de passer ma culotte. Je me tournai vers mon ancêtre et je lui dis « Ah ça, il ne m'arrivera rien de fâcheux au moins. Je te le promets. Et vous me ramènerez ici ? Au premier chant du coq. Vous m'en donnez votre parole de gentilhomme. Foi de Roland de la Tremblée. Voilà qui est bien. Je vous suis. » J'achevai très rapidement de m'habiller et je me disposai à prendre mon fusil posé dans un coin. « Non, non, me dit mon ancêtre. Laisse cela et prends ceci. » Et il me tendit une arbalète pareille à celle qu'il portait sur son épaule et qui devait décocher fort loin des flèches d'une prodigieuse longueur. « Je ne sais pas m'en servir, lui dis-je. Prends toujours, et quel que soit le gibier que tu vises, tu ne manqueras pas ton coup. » Je pris l'arbalète. « Viens maintenant, me dit Roland. Le dernier coup de minuit est sonné depuis longtemps, et le temps perdu ne se retrouve pas. » Après avoir prononcé ces paroles, il approcha de ses lèvres l'embouchure de sa trompe, et il fit résonner une fanfare diabolique. Aussitôt tous les chiens, qui, je l'ai déjà dit, quêtaient de ça et de là, bondirent avec furie sur la trace d'une bête fauve invisible, en donnant de la voix tous ensemble avec un accord parfait. Mon ancêtre les suivit. La lisière de la forêt était de plein pied avec le plancher de ma chambre. Je m'élançai derrière Roland de la Tremblée. La chasse était commencée, et ce fut, je vous le jure, monseigneur, une étrange chasse. Je vous ai dit que j'avais passé toute la journée de la veille dans les bois, et que 2 ou 3 heures auparavant, je m'étais couché brisé de fatigue. Cette fatigue avait disparu comme par enchantement, et jamais je ne m'étais senti le corps si reposé et les membres si dispos. On eût dit que j'avais, ainsi que jadis le dieu Mercure, des ailes aux talons, car je ne courais pas, je volais, n'étant jamais distancé par la meute d'une longueur de plus de 10 ou 12 pas. Et Dieu sait cependant que la meute allait un train d'enfer. Les grands arbres, qui bordaient les longues avenues, semblaient fuir sur notre passage comme si nous avions été emportés par le souffle impétueux d'un vent d'orage. Parfois, les chiens se lançaient au plus fort des plus inextricables fourrés. Je n'hésitais pas, je bondissais derrière eux, et les taillis épais s'entr'ouvraient d'eux-mêmes devant moi pour me livrer passage. Mon ancêtre m'encourageait du geste, mais il ne parlait pas. Ses lèvres ne quittaient point sa trompe qui sonnait sans relâche la même fanfare enragée. La meute chassait un sanglier. En moins d'une demi-heure, ce sanglier fut forcé, et les chiens en firent curer en quelques secondes au bruit d'un foudroyant hallali. Puis, immédiatement après, couverts d'écume et de sang, ils s'élancèrent sur une deuxième piste, et bientôt la trompe de Roland de la Tremblée sonna le débuchet d'un cerf. Que vous dirais-je ? J'assistais successivement à la prise de 10 animaux différents, et comme la chasse avait marché presque toujours en ligne droite, il me semblait que nous devions être à une prodigieuse distance du château de la Tremblée. Mais j'avais confiance en la parole de mon ancêtre, qui m'avait promis de me ramener, et je ne m'inquiétais de rien. Peu à peu, cette course insensée se ralentit, puis s'arrêta. Les chiens se turent, les notes de la fanfare s'éteignirent. Roland se tourna vers moi. « Enfant, me dit-il, sur ta vie, pas un mot à qui que ce soit au monde de ce qui s'est passé cette nuit. Du moins, tant que ta tapisserie de Saint-Hubert se trouvera dans ta chambre à coucher. » J'allais lui demander le motif de cette étrange défense, mais il ne m'en laissa pas le temps. « Mets une flèche sur ton arbalète, ajouta-t-il, et apprête-toi à tirer. » Je ne voyais aucun gibier, cependant j'obéis machinalement. Un bruissement d'ailes se fit entendre dans un buisson, et un magnifique faisan doré prit son vol à 20 pas de moi. Je tirai, le faisan tomba. Je poussai un cri de joie, et je m'apprêtais à courir ramasser ma proie. Sans doute, en ce moment, nous étions près de quelqu'une de ces fermes qui se trouvent sur la lisière du bois, j'entendis un coq chanter. Soudain, la chasse, la forêt, le vieux chasseur, tout disparut. Je me retrouvai couché dans mon lit, et les pâles lueurs du matin me montrèrent en face de moi, sur la tapisserie aux grands horizons verts, Saint-Hubert agenouillé devant le crucifix du cerf miraculeux. Un long et sonore éclat de rire de Philippe d'Orléans accueillit les dernières paroles de Raoul. « Vous aviez rêvé tout cela, mon cher chevalier, dit-il au bout de quelques secondes, quand il eut recouvré son sérieux. « Comme votre Altesse royale, je l'ai cru d'abord, » répliqua Raoul.
« Avez-vous donc cessé de le croire ?»«
Oui, monseigneur. »«
Pourquoi ?»«
Parce que j'ai eu immédiatement la preuve que tout ce que j'avais vu était bien réel. »
Et cette preuve?
La voici, monseigneur.
Entre mon lit et la tapisserie,
sur le parquet, se trouvait un objet dont je ne distinguais pas bien la nature dans le premier moment et avec les clartés douteuses du matin. Je me levai et m'approchai de cet objet.
Et c'était? Demanda le régent.
C'était un faisan doré, percé d'une flèche, monseigneur.
Ah ah! S'écria Philippe.
Ce faisan était encore chaud, poursuivit Raoul.
En effet, ceci est étrange,
comme tout ce qui est surnaturel, monseigneur.
Mais nous ne sommes pas au bout.
Tant mieux, car vous m'intéressez singulièrement avec vos histoires de l'autre monde. À propos, et ce faisan, qu'en fîtes-vous?
Je le cachai sous ma veste, après avoir arraché et brisé la flèche qui le traversait. Je pris mon fusil, je m'en allai dans le parc avant que les domestiques, qui avaient mission de me surveiller, fussent levés, et je revins triomphant, 2 ou 3 heures après, en disant que je venais de tuer d'un seul coup de fusil ce superbe oiseau. On le pluma, on le fit rôtir, et je le mangeai à mon dîner.
Était-il bon?
Excellent!
Et l'année suivante, au jour anniversaire de la mort de votre ancêtre, qu'arriva-t-il?
Une scène exactement semblable à celle que je viens d'avoir l'honneur de raconter à votre Altesse.
Une nuit de chasse?
Oui, monseigneur.
Et encore un faisan tué au moment où le coq allait chanter?
Non, monseigneur, une gélinotte.
J'ajouterai, pour éviter des redites, que cette chasse fantastique eut lieu régulièrement d'année en année, pendant 4 ans.
Et ensuite,
un domestique maladroit approcha sottement un flambeau de la tapisserie qui prit feu. Ce fut précisément le personnage de Saint-Hubert qui brûla. On détendit le reste de la tenture, on la remplaça par des boiseries, et tandis qu'on travaillait à la restauration de cette pièce, je pris possession de la deuxième chambre.
Chapitre 12. La deuxième tapisserie.
J'avais alors 16 ans accomplis depuis quelques jours, poursuivit Raoul. Mes sens s'éveillaient, et quoique je payasse un tribut de juste regret à mon bon vieux Saint-Hubert et aux nocturnes et fantastiques parties de chasse qu'il m'avait fait partager, la vue de la seconde tapisserie me consola bien vite de la perte de la première. En effet, les 4 panneaux de la tenture de ma nouvelle chambre représentaient des scènes infiniment galantes, empruntées les unes à la mythologie, les autres à 2 poètes célèbres, l'Arioste et le Tasse. C'était d'abord le jugement de Paris. Les 3 déesses, Junon, Vénus et Minerve, faisaient les choses en conscience, et la légèreté de leurs costumes permettait aux bergers de décerner le prix de la beauté avec toute connaissance de cause. C'était ensuite la séduction de Renaud et de ses compagnons, par Armide et par les nymphes, dans les jardins de l'enchanteresse. Jamais Boucher, le peintre coquet dont votre Altesse royale sait apprécier les tableaux peu gazés, n'étala plus de chair rose et blanche et de plus gracieuses attitudes. Le 3e panneau figurait les amours de Médor et Angélique, l'infidèle maîtresse de l'Orlando Furioso. Les 2 amants, dans une grotte sombre tapissée de mousse et enguirlandée de lierre, mettaient à profit la solitude et le mystère. La chaste Angélique pressait dans ses bras le berger Médor. Enfin, le 4e panneau, celui qui se trouvait en face de mon lit et qui, par conséquent, devait attirer le plus souvent mes regards, n'offrait qu'une seule figure, mais miraculeusement belle et charmante. Vénus au bain, ou plutôt Vénus sortant du bain. La déesse de Cythère, de Paphos et d'Amatonte, quittait la coquille immense qui venait de lui servir de baignoire et serrait autour de ses hanches la flottante draperie, dont les plis nombreux cachaient la partie inférieure de son corps, ne laissant voir que l'un de ses petits pieds rosés. Son immense chevelure, aussi blonde que les blés ou que les rayons du soleil, ruisselait comme des flots d'or sur la neige frissonnante de ses épaules et sur le marbre empourpré de sa gorge divine. Dans les ondes de cette chevelure qui séduisit les hommes et les dieux, Vénus avait semé des roses. Sa lèvre souriait, ses grands yeux bleus avaient une étincelle provocante et voilée qui semblait me suivre partout et qui, pourquoi n'en conviendrais-je pas, me remuait étrangement le cœur. Vous riez, mesdames, et vous me trouvez parfaitement ridicule. Eh bien, riez encore, et riez plus fort, car au bout de 3 jours, j'étais en train de devenir fort passionnément amoureux de la Vénus de la tapisserie. Nous étions en plein hiver, et l'hiver était rigoureux. Une couche de neige d'une invraisemblable hauteur couvrait la terre et m'interdisait la promenade et la chasse. Je passais mes journées tout entières enfermées dans ma chambre et les regards attachés sur ses yeux bleus fascinateurs, sur ses cheveux blonds dénoués, sur ses bras blancs, sur cette gorge nue. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je perdais la tête. Depuis 3 semaines à peu près, j'étais dans cet état quand arriva le premier vendredi du mois. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le vendredi, Veneris dies, est le jour de Vénus. Mon père se couchait de bonne heure. Aussitôt qu'il se fut retiré, je remontai dans ma chambre et je m'assis au coin de la gigantesque cheminée dans laquelle brûlait un grand feu. J'appuyai mon coude sur les bras de mon fauteuil, ma joue sur ma main, et je me mis à penser à ma belle déesse. Je vous ai dit que je ne dormais plus guère, et voici que je sentis au bout de quelques minutes un invincible sommeil s'emparer de moi. Je me déshabillai machinalement, je me couchai, j'éteignis ma lumière et ma tête avait à peine touché mon oreiller que mes paupières fatiguées s'abaissèrent sur mes yeux. Je dormais. Quand je me réveillai, la chambre était faiblement éclairée par les lueurs douteuses rayonnant de quelques charbons en train de se consumer dans l'âtre. Les rideaux de lourd damas qui tombaient le long des colonnes torses de mon lit gothique ne me laissaient voir que ce morceau de la tapisserie sur lequel s'épanouissait Vénus sortant de sa conque. C'est là que mon regard se dirigea, comme l'acier vole à l'aimant. Mais à peine avais-je regardé que je me soulevai en poussant un cri de surprise. La tapisserie était toujours là, mais la déesse avait disparu. Avec une promptitude furieuse, j'écartai le rideau qui se déchira sous ma main. Et je vis. Je vis ma divine bien-aimée, éclatante et radieuse, debout au chevet de mon lit, retenant d'une main sa tunique blanche autour de ses hanches, écartant de l'autre ses grands cheveux blonds. La stupeur et l'extase me rendirent muet et immobile. Vénus sourit. « Enfant, me dit-elle d'une voix harmonieuse comme l'harmonie elle-même. « Enfant, ainsi, tu m'aimes ?»« Si je vous aime, balbutiai-je, à 100 fois, 1000 fois, plus que ma vie. Et vous le savez bien, puisque vous êtes déesse et que les dieux savent tout. »« C'est vrai, dit-elle, je le sais. » Je repris avec feu. « Et parfois les déesses ont aimé les mortels. Déesse, voulez-vous m'aimer ?»« Peut-être, répondit-elle. » Puis plus bas, elle murmura. Comme il ressemble à celui que j'ai tant aimé. Comme il lui ressemble. Ai-je les traits de Mars ou le visage d'Adonis? M'écriai-je dans un transport de fol orgueil. Vénus eut un nouveau sourire. Ni à l'un, ni à l'autre, dit-elle. Mais à qui donc? Demandai-je. À ton aïeul, au vaillant et loyal chevalier, Albéric de la Tremblée. Comment, déesse, vous avez aimé mon aïeul? Plus que ma vie. Malgré Vulcain? Vulcain n'eut rien à voir là-dedans. J'aimais ton aïeul. Il m'aima. Je fus sa maîtresse. Je mourus à 20 ans, ne lui laissant de moi qu'un portrait. J'étais belle, Il voulut éterniser le souvenir de nos ardentes et courtes amours. Il me fit renaître en Vénus. Et mon aïeul vivait ?
Il y a 220 ans.
Mais alors, vous avez...
Vénus m'interrompit en souriant pour la troisième fois et dit
« Je n'ai pas d'âge, enfant, ou j'ai toujours 20 ans, car je suis immortelle. »
En même temps, je sentis courir sur mon visage les ondes caressantes et parfumées des grands cheveux blonds de la maîtresse de mon aïeul.
Une haleine suave effleura ma joue. Ses bras m'enlacèrent. Quand je me réveillais pour la seconde fois, il faisait grand jour. La Vénus blonde et blanche avait repris sur la tapisserie sa place séculaire.
« Ah, pour cette fois, mon cher chevalier, s'écria le régent avec un joyeux éclat de rire, vous conviendrez sans peine, j'imagine, que votre merveilleuse aventure se réduit aux proportions d'un simple rêve anacréontique. »
« Que votre Altesse daigne me pardonner, répliqua Raoul, mais je ne puis convenir de cela. »
« En vérité ?
Non, monseigneur. »
Cependant, la déesse n'avait laissé sans doute ni Faisan ni Gélinotte derrière elle pour vous convaincre que le rêve était une réalité.
Elle s'était manifestée d'une autre façon, monseigneur.
Et de quelle façon, s'il vous plaît?
Elle avait laissé sur mon lit 2 ou 3 des roses effeuillées de sa chevelure.
Et nous étions au mois de janvier.
Vous avez réponse à tout, chevalier.
Je raconte, monseigneur. Et je dis les choses comme elles sont.
Il n'y a plus moyen de douter, et je me déclare convaincue.
Et maintenant, voyons, dites-moi, qu'arriva-t-il? La séduisante apparition revint-elle vous trouver le premier vendredi du mois suivant?
Mieux que cela, monseigneur.
Ah ah!
Il paraît que Vénus aimait encore plus l'amour que Saint-Hubert n'aimait la chasse.
Et je trouve que Vénus avait pardieu raison, s'écria le duc d'Orléans.
Bref, la maîtresse de mon aïeul revint le lendemain.
« Diable, chevalier, dit Philippe, il paraît que vous vous étiez montré bon compagnon. »
« J'avais fait de mon mieux, monseigneur, répondit Raoul avec une modestie pleine de fatuité.
« Allons, allons, trêve d'humilité, et revenons à votre Vénus. »
« Donc, elle reparut le lendemain ? »
« Oui, monseigneur. »
« Puis le surlendemain. » Puis tous les soirs.
Ah, la gaillarde!
Enfin, au bout de 3 mois, elle ne revint plus, interrompit le duc d'Orléans.
Pardonnez-moi, monseigneur, elle serait revenue sans doute, mais c'est moi qui partis.
Vous en aviez assez?
J'en avais trop, monseigneur, mais pas dans le sens que votre Altesse royale daigne donner à ce mot.
Comment l'entendez-vous?
Je veux dire que j'étais pâli, maigri, défait, exténué, presque phtisique, si bien que mon père, prodigieusement inquiet, jugea convenable de m'envoyer passer quelques mois sur les bords de la Méditerranée.
Ce qui vous réussit.
Parfaitement, monseigneur. Il suffisait pour me guérir de m'éloigner de mon adorable et dangereux vampire.
Mais une fois rétabli, vous revint au château de la Tremblay, j'imagine.
« Oui, monseigneur. »«
Qu'arriva-t-il alors ?»«
Rien, monseigneur. »«
Plus d'apparition ?»«
Aucune, et pour la meilleure de toutes les raisons. »«
Laquelle ?»«
Mon père, par un motif que j'ai toujours ignoré, avait fait enlever et porter dans le garde-meuble les tapisseries mythologiques. »« Je trouvais la seconde chambre boisée comme la première. »«
Mais n'y avait-il pas une troisième chambre ?»«
Oui, monseigneur. »
Tapissé ?
Oui, monseigneur. Et ce fut dans celle-là que je m'installai le soir même de mon retour au château de la Tremblay.